Chapitre 20. Le fils préféré. Le noir est une couleur en soi qui résume et consume toutes les autres. Henri Matisse. 1. Ils avaient quitté New York en début d'après-midi pour prendre la route vers l'est, dans les embouteillages. Les 100 premiers kilomètres jusqu'à New Haven avaient été cauchemardesques. Une autoroute surchargée ponctuée d'un grand nombre d'échangeurs. Un enfer urbain qui se prolongeait à l'infini. Un territoire à l'agonie, gangréné par des métastases de béton, asphyxié par le dioxyde d'azote et les particules fines. Madeleine et Gaspard avaient mis à profit le temps qui s'étirait dans leur périple pour assembler les pièces d'un puzzle macabre. L'histoire d'une enfance massacrée, d'une violence qui finit par engendrer une violence décuplée, d'une cruauté et d'une barbarie quotidienne qui, bien des années plus tard, alimenterait une folie meurtrière. L'histoire d'une bombe à retardement. L'histoire d'un petit garçon que ses parents, chacun à sa manière, avaient transformé en monstre. Madeleine augmenta la température du chauffage. La nuit tombait déjà. La journée avait passé sans qu'elle s'en rende compte, au rythme des découvertes qui s'accéléraient. Des pans entiers sortaient de l'ombre. Elle avait déjà connu ça sur certaines affaires. C'était le moment le plus excitant de l'enquête, la revanche de la vérité, quand, après avoir été trop longtemps refoulée, certaines évidences refaisaient surface avec une force dévastatrice. Dans son esprit, la brume commençait à se dissiper et ce qu'elle laissait deviner la sidérait. Il est toujours difficile d'identifier les racines d'une tragédie, de détecter l'instant précis où une vie bascule. Depuis quelques heures, Madeleine avait pourtant une certitude. Le drame s'était noué pendant l'été 1976, à Tiburton, un petit port de pêche du Massachusetts, vers lequel il roulait à présent. Cet été-là, une infirmière du dispensaire local, Bianca Sotomayor, apprend qu'elle porte un deuxième enfant. À l'instant où ses yeux se posent sur les résultats de sa prise de sang, elle prend une décision radicale. Lasse d'endurer quotidiennement les injures et les coups de son mari, Ernesto, elle rassemble ses économies et abandonne son foyer du jour au lendemain pour refaire sa vie au Canada. À l'époque, Adriano, son fils aîné, n'a pas encore 6 ans. Resté seul avec son père, le garçon est le réceptacle de toute sa violence. Il endure raclée sur raclée, humiliation sur humiliation, administrée parfois avec une cruauté inimaginable. Il faut attendre encore 2 longues années pour que son institutrice, Nella Boninsegna, dénonce les agissements du père et délivre l'enfant de son calvaire. Alors les choses semblent s'arranger dans la vie du jeune garçon. Éloigné de son père, Adriano a la chance d'être placé dans une famille d'accueil plutôt bienveillante, qui lui permet même de garder le contact avec sa cousine Isabella. À Harlem, il passe une adolescence banale et se lie d'amitié avec le jeune Sean Lawrence, un petit génie du graffiti, et la très tourmentée Béatrice Muñoz, une fille d'émigrés chiliens qui, à cause de son physique, a comme lui connu une enfance difficile, marquée par le mépris et les humiliations. À eux trois, ils forment les Artificiers, un groupe de taggeurs qui recouvrent de leurs couleurs vives les rames de métro et les murs de Manhattan. Adriano n'était pas très assidu en cours. Il quitte l'école rapidement et, après une jeunesse un peu tumultueuse, finit par intégrer la police où il gravit les échelons sans faire de vagues. En apparence, il mène une vie rangée. Mais qui peut dire ce qui se passe vraiment dans sa tête? C'est là que les fragments du puzzle devenaient plus hypothétiques. Madeleine savait bien qu'elle combinait désormais des impressions et des possibilités, étayées par leurs quelques solides mais rares découvertes new-yorkaises. Pourtant, le tableau général qui se dessinait était d'une incroyable cohérence. Une chose était certaine pour Madeleine. Les ténèbres de l'enfance de Sotomayor ne s'étaient pas dissipées. Elles refaisaient surface au début des années 2010. C'est là qu'Adriano a retrouvé la trace de son jeune frère, Ruben, enseignant à l'université de Gainesville. Les deux frères connaissaient-ils depuis longtemps leurs existences respectives? S'étaient-ils déjà parlé? À ce stade, Madeleine l'ignorait. Toujours est-il qu'à cette période, une haine vengeresse consumait Adriano et l'avait entraîné dans une folie meurtrière. il avait retrouvé sa mère en Floride. Dans un premier temps, sans doute, avait-il pensé la tuer, mais il s'était ravisé. La mort était trop douce pour ce qu'elle lui avait fait subir. Madeline n'était pas psychiatre, mais elle croyait avoir trouvé la clé du comportement d'Adriano. Ce n'était pas à son père qu'il en voulait le plus. C'était à sa mère. Sa mère qui l'avait abandonné. Sa mère, autrefois adorée, qui avait déserté le champ de bataille sur lequel ils combattaient ensemble. Sa mère qu'il vénérait et qui avait préféré s'enfuir avec l'embryon qu'elle portait dans son ventre. C'est donc autour de cette mère que sa haine s'était cristallisée. Madeline imaginait la stupeur qu'avait dû ressentir le petit garçon. À côté de cette sidération, même la violence de son père ne faisait pas le poids. Du moins, c'est comme cela que son cerveau avait dû réécrire l'histoire. Les hommes sont violents par nature, mais les mères se doivent de protéger leur enfant. Sauf que la sienne était partie pour en protéger un autre. Une défection dont elle n'avait pas fini de payer le prix. Le scénario paraissait dément, mais c'était le seul motif rationnel que Madeline avait trouvé pour relier la trajectoire d'Adriano à la signature des crimes du roi des Aulnes. Adriano avait donc enlevé Bianca, l'avait séquestrée, et pendant plusieurs semaines, lui avait sans doute longuement raconté comment il allait tuer Ruben, battre son fils préféré, jusqu'à ce que mort s'en suive. Il s'était un temps délecté de cette torture mentale. Puis, il était passé à l'acte. Ruben était mort. Mais Bianca n'allait pas s'en tirer à si bon compte. Adriano allait perpétrer ce même crime jusqu'à la fin des temps. Lui infliger le meurtre de son frère 100 fois répété. Lui faire endurer un calvaire, une punition sophistiquée qui avait dû lentement germer dans son esprit. En février 2012, dans le jardin d'enfants de Shelton, il avait enlevé le petit Mason Melville et l'avait confié à sa mère. Dans son enfermement, Bianca n'avait eu d'autre choix que de s'occuper du mieux qu'elle pouvait du gamin. Elle avait même dû redoubler d'affection pour essayer d'atténuer le traumatisme que devait vivre un enfant de 2 ans, séparé brutalement de ses parents, pour croupir dans une cave sombre, en compagnie d'une inconnue. Forcément, Bianca n'avait pu faire autrement que de s'attacher à lui. Mais au milieu du printemps, sans crier gare, le roi des Aulnes avait repris l'enfant à sa mère et l'avait tué, vraisemblablement devant elle, avant d'aller déposer son cadavre près d'un étang. Une séquence que dans les 2 ans qui suivirent, Adriano allait répéter à 3 reprises avec Caleb Coffin, Thomas Sturm et Daniel Russell. Madeline n'avait plus aucun doute sur l'identité du roi des Aulnes. Adriano était bien le tueur, mais contrairement à ce que tout le monde avait cru, ses véritables victimes n'étaient pas les enfants. C'était tragique à dire, mais ces malheureux gamins n'étaient que des dommages collatéraux, des moyens pour atteindre à l'infini sa seule et unique victime, sa mère. 2. Au niveau de Mystique, la circulation se fluidifia enfin. Le pick-up continua à longer la côte vers l'est, puis progressa dans les terres du Rhode Island en direction de Providence. À l'écoute des stations de radio, impossible d'ignorer qu'on était à quelques heures seulement du réveillon. De Dean Martin à Nat King Cole, tous les crooners semblaient s'être donné le mot pour animer la soirée. Louis Armstrong venait à peine de terminer White Christmas que déjà Sinatra entamait Jingle Bells. Les pensées de Gaspard suivaient de près celles de Madeline. Il songeait à la mythologie grecque, au châtiment que Zeus avait infligé à Prométhée pour avoir dérobé aux dieux le feu sacré. Être ligoté sur une montagne pour se faire dévorer chaque jour un morceau de foie par l'aigle des Carpates. Le foie possédant cette capacité à se régénérer dans la nuit, le calvaire pouvait recommencer dès le lendemain. Une souffrance à perpétuité. Une expiation pas si éloignée de celle qu'Adriano avait fait subir à sa mère. Le meurtre du fils préféré, plusieurs fois répété. Gaspard songea à la haine qu'avait dû accumuler Sotomayor pour se lancer dans une telle folie et à la malchance de tous ceux qui s'étaient trouvés sur sa route. En décembre 2014, les hasards de la vie font que sa dérive meurtrière croise 2 autres destins. Les 3 artificiers se retrouvent malgré eux sur le chemin de l'existence. Mais les couleurs vives des années 1990 ont laissé place à celles du sang et des ténèbres. Beatriz Muñoz, avec qui Adriano est resté en contact irrégulier, s'est laissé entraîner par ses propres démons. Il y avait quelque chose de paradoxal et de frustrant à se dire que Beatriz représentait la petite sœur de souffrance d'Adriano. La souffrance qui engendre la souffrance. La même haine qui vous conduit à infliger le pire à ceux que vous avez profondément aimés. Mais une différence de taille sépare ces deux âmes tordues. Beatrice ne va pas jusqu'au bout de sa folie. Elle torture Penelope Lawrence, physiquement et mentalement, mais n'ôte pas la vie à Julian. Lorsqu'elle prend la décision de rendre l'enfant à ses parents, elle contacte Adriano, qu'elle pense être un flic intègre, pour jouer les intermédiaires. Elle lui donne rendez-vous à Newton Creek, lui confie l'enfant pour qu'il le remette à son père, et s'en va se jeter sous un train. C'est donc dans ces circonstances improbables que le roi des Aulnes se retrouve avec le fils de Sean dans le coffre de sa voiture. Un héritage qui le dispense d'enlever un nouvel enfant. Il ramène Julian dans la planque où, selon un rituel maintenant bien établi, il le confie à Bianca. Les semaines passent. Suivant le mode opératoire qu'il a toujours respecté, Sotomayor planifie d'ôter la vie à Julian entre la fin février et le début du mois de mars. Sauf que le 14 février 2015, le roi des Aulnes est bêtement tué devant chez lui par un petit dealer. Gaspard cligna des yeux. Retour à la réalité. Voilà l'histoire telle que Madeleine et lui étaient parvenus à la reconstituer. En remplissant les blancs par beaucoup d'hypothèses. Peut-être qu'il faisait fausse route, mais si ce n'était pas le cas, deux questions restaient en suspens. Où le roi des Aulnes séquestrait-il sa mère et ses victimes? Et surtout, y avait-il la moindre chance que Julian et Bianca soient encore en vie presque 2 ans après la mort de leur geôlier? La réponse à la dernière question était vraisemblablement non. Quant au lieu de détention, il pensait l'avoir localisé. À New York, quelques heures plus tôt, Gaspard avait suivi l'intuition de Madeleine et appelé André, le mari d'Isabella. Celui-ci avait confirmé que la succession d'Adriano avait été longue et compliquée à cause des implications juridiques liées à la disparition de Bianca. Pour faire simple, la procédure ne s'était débloquée que lorsque le juge chargé de l'instruction avait signé l'acte de décès de sa tante. André, y avait-il un autre bien immobilier dans la succession? Un terrain, un chalet, une cabane?
Il y avait la vieille maison de famille des Sotomayor, à Tiburton.
Vous y êtes allé récemment?
Jamais. Isabella déteste ce bled. Et la piole? Elle craint. J'ai vu des photos, on est plus proche d'Amityville que de Martha's Vineyard.
Qui y habite en ce moment?
Personne. On essaye de la vendre depuis 1 an, mais les acheteurs ne se bousculent pas au portillon. Et l'agent immobilier n'a pas l'air d'être une flèche.
Gaspard avait noté l'adresse. Lorsqu'il en avait parlé à Madeleine, elle avait remarqué qu'il n'était pas logique que le vieil Ernesto n'ait pas cherché à se débarrasser de cette baraque, à l'époque où on lui avait diagnostiqué son cancer et où il était revenu vivre chez son fils à New York. L'hypothèse que la planque d'Adriano soit cette maison avait gagné en crédibilité. Ça impliquait une sacrée organisation pour assurer le ravitaillement de la captive pendant qu'il travaillait à New York, mais c'était possible. Gaspard avait senti son cœur s'accélérer et le sang battre dans ses tempes. « Ne vous emballez pas, Coutance. Tout ce que nous allons découvrir, ce sont 2 cadavres », avait lâché Madeleine avant de prendre la route.